Eh bien donc, bienvenue pour cette rencontre, bienvenue aux amis donc de Saint-Eustache. C'est sympa de venir jusque dans notre humble chaumière. Non, parce qu'on me dit que les chaises sont moins agréables.
Il y a plus de lumière, en tout cas.
Elles sont plus dures. Ça, c'est vrai. En tout cas, on a prévu aujourd'hui un peu un parcours dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Donc, c'est vrai que c'est un morceau qui n'est pas forcément... je dirais plus facile que d'autres, parce que bon, Paul toujours fait un peu peur, peut-être, par un langage très théologique. Bien que là, nous avons aujourd'hui, je crois, quelques passages qui sont assez nourrissants, si je puis dire, surtout le premier qui parle donc de repas du Seigneur, je ne sais pas comment il l'appelle, ce qu'il s'appelait de temps en temps la fraction du pain à l'époque, et maintenant on appelle ça la scène, l'Eucharistie, la communion. Ensuite un passage sur le corps du Christ, et puis enfin la résurrection des corps. Donc trois passages sur le corps du Christ, sur voilà. Donc toujours dans ce thème de chair, corps et monde que nous avions choisi pour cette année.
Bonsoir à tous, merci de ton accueil, Marc. Effectivement, une épître, alors j'avais un peu oublié le chapitre 15 en fait, moi j'ai lu le 13, mais qui est sur la charité que vous connaissez bien, hein. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'une cymbale qui résonne, c'est bien le 13, c'est le chapitre qui n'apparaît pas ici. Alors c'est effectivement bien que nous lisions ça avant d'entrer dans la semaine sainte. On se le disait justement à l'instant, puisque dans votre tradition vous appelez scène les célébrations du culte au temple quand il y a communion et fraction du pain. Et dans la tradition catholique, même si quand même nous avons fait le lien entre la messe et la scène, en tout cas j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde, mais nous appelons scène uniquement la commémoration du Jeudi Saint. Probablement parce qu'il y a cette habitude au cours de la semaine sainte d'essayer de revivre jour par jour, heure par heure, ensemble, de manière ecclésiale, communautaire, les derniers jours de Jésus, dans ce climat, dans ce contexte pascal que nous avions déjà évoqué les autres années. Donc, le texte là du chapitre 11, c'est la première occurrence du geste, de la fraction du pain, hein. Faites ceci en mémoire de moi. Avant les évangiles, on est à peu près autour de l'année 56 pour l'épître, la première épître aux Corinthiens. 56, c'est-à-dire une vingtaine d'années après les événements de la mort et de la résurrection du Christ. Voilà. Alors, épître aux Corinthiens, qui est un texte, vous le savez, majeur de la tradition chrétienne, avec l'épître aux Romains, et l'épître aux Galates, alors, qu'on a lu l'autre jour, c'est pour ça que j'y fais allusion. L'épître aux Romains s'adresse, non pas à des Romains, mais à des Juifs de Rome, donc c'est tout un développement sur la loi et sur le lien entre l'ancien Israël, le nouveau, etc. Ici, on s'adresse clairement à une communauté qui n'est pas juive, qui est grecque, qui est une communauté vivant dans une très grande ville de l'Empire romain, qui est de culture païenne, et c'est l'un des grands textes du dialogue interculturel, d'une certaine manière. Je pense que c'est un texte qui devrait figurer dans toute charte, dans toute bibliographie des grandes institutions internationales, parce que c'est la question de comment évangéliser une culture qui n'a même pas la mémoire du judaïsme, ce qui était encore le cas des Juifs de Rome, effectivement, avec lesquels Paul entre en dialogue. Alors, Corinthe, vous voyez l'isthme de Corinthe, c'est la ville aux deux ports, c'est une ville portuaire avec deux ports, hein, un port qui donne sur l'Adriatique et un port qui donne sur la mer Égée. C'est une ville portuaire avec tout ce que ça veut dire, hein, de matelots, de tout ce qu'on veut, enfin je pense au vers de Victor Hugo qui dit Babel est dans Madrid, mais Babel était dans Corinthe aussi, c'est-à-dire que c'était un lieu de brassage culturel et linguistique. Il y avait tous les peuples du monde méditerranéen qui se croisaient. On dit que la vie culturelle y était très forte, les cultes aussi orientaux étaient très présents. Il y avait une véritable vie religieuse un peu dans tous les sens, et puis aussi un relâchement moral. Enfin, en tout cas, vivre à la corinthienne, ça voulait dire effectivement vivre selon des mœurs et des modes de vie qui n'étaient pas ceux des Juifs et qui n'étaient pas ceux des communautés des premiers disciples de Jésus. Donc là, il y a un vrai enjeu. Et il faut bien se représenter tout ce que ça veut dire pour Paul. Au fond, quand on parle de l'Évangile, etc., on parle quand même d'un petit monde qui, entre la Galilée et la Judée, évoluait dans un espace assez balisé, assez circonscrit. Jésus n'a jamais quitté ce monde. Quand il est allé du côté de Tyr et de Sidon, lui-même a été un peu déconcerté par la Syro-Phénicienne. Et tout d'un coup, là, en l'espace de moins d'une génération, ils sont projetés dans un univers mondialisé, hein. C'est la Méditerranée. Aujourd'hui, ils prendraient l'avion, ils iraient. Voilà, donc il y a un choc quand même. Je pense qu'on sous-estime parce que quand on lit les Actes des Apôtres, il y a cette épopée. On voit bien la sortie, l'ouverture, hein, la prise de conscience de l'universalisme, etc. Mais ensuite, il fallait trouver des hommes pour le vivre. C'est pas facile. Tout le monde n'a pas un charisme capable d'aller affronter comme ça les nouvelles cultures, de parler latin, grec, ce qui était le cas de Paul, hein, qui était de tradition pharisienne, donc plutôt traditionnaliste, juif, lisant sûrement l'hébreu, parlant sûrement l'araméen, parlant aussi le grec, l'écrivant et parlant aussi latin, puisqu'il était né à Tarse et donc citoyen de l'Empire. Donc il y a tout ce brassage qu'il faut avoir en tête, à mon avis, pour bien comprendre cette épître aux Corinthiens, qui est un texte alors, où il y a tout, hein. Alors, il y a les considérations sur le mariage, tout ça n'est pas toujours facile à entendre. Il y a aussi les considérations sur les viandes sacrifiées aux idoles, parce que c'est un gros problème. Et on voit bien comment la pensée de Paul, qui par moments nous semble un peu peut-être. Un peu encore empreinte des préjugés de l'époque, des préjugés méditerranéens, patriarcaux, etc. Mais c'est une pensée qui bouge. Sur les rapports hommes-femmes, par moments, on voit que lui-même, dans le temps de l'écriture, transforme un peu son point de vue. Alors, les textes que nous avons choisis, c'est sur effectivement le corps du Christ et Église, corps du Christ, avec la fameuse métaphore des membres et du corps.
Alors juste avant ce passage, donc 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, avant, il y a le contexte d'une dispute finalement, et Paul les engueule un peu, disant, mais comment c'est possible que dans votre Église, il y ait autant de divisions, de disputes, et en particulier au cours de ces repas finalement, ces repas, ça ressemblait, à mon avis, plus à un repas de paroisse qu'à ce geste liturgique que nous avons maintenant. Parce qu'il dit, mais vous vous précipitez pour vous goinfrer. Du coup, les gens qui arrivent après, peut-être c'était les pauvres travailleurs qui arrivaient après leur boulot. Ben, il n'y a plus rien à manger, en fait. Et donc, si c'est ça le repas du Seigneur, vous êtes vraiment dégueulasse. Et donc, on arrive à ce passage où, effectivement, il continue à leur remonter les bretelles, si je puis dire, à leur dire, mais vraiment, c'est impossible d'avoir ces divisions entre vous et cet égoïsme dans votre Église, alors que nous avons cela qui nous rassemble, finalement. Et donc, je crois que c'est quand même intéressant de voir, effectivement, comment est-ce qu'il conçoit ce geste, parce que du coup, il l'élabore. Bon, mais c'est comme tout, c'est difficile, parce qu'en fait, dans ses lettres, Paul, il n'avait pas la conscience d'écrire la Bible, en fait. Il écrit une lettre à des gens, en fait, avec un contexte, une situation donnée. Et donc, il écrit une lettre. Bonsoir. Donc, en fait, c'est pas un traité sur la communion. C'est à l'occasion de cette dispute, de cette difficulté dans cette église. Eh bien, il réfléchit sur ce geste, sur sa signification, et sur les conséquences que ça devrait avoir dans la vie des personnes qui sont là. Donc quand il commence au début, finalement, hein, mais il faut lire le texte quand même, mais enfin il insiste beaucoup que ça vient du Seigneur, etc. Donc avec leur division, eh bien, c'est le Seigneur qui trahisse, c'est le Christ qui trahisse, c'est pas simplement les chefs de l'Église, ceux qui sont pour Apollos, ceux qui sont pour Paul, ceux qui n'en font qu'à leur tête. C'est beaucoup plus, voilà, il enracine ça vraiment dans le Christ, comme cette nécessité d'être en bonne entente comme des frères entre nous. Et ensuite, eh bien, oui, dans la suite de ce texte, avec le corps du Christ, le corps de l'Église, et puis dans l'hymne à l'amour, qu'on lit si souvent pour les mariages, bien que ça n'ait aucun rapport. Eh bien, c'est là aussi, il fonde, mais je dirais plus théologiquement, plus spirituellement, plus existentiellement, une unité qui doit vraiment être incontournable comme fruit de ce que nous recevons du Christ. Alors peut-être qu'on peut commencer à lire voilà, le premier texte, hein, celui de 1 Corinthiens 11.
Pour les agapes, je sais, est-ce que tout le monde voit effectivement la polémique que Paul pointe? Paul écrit sûrement, il est à Éphèse quand il écrit cette lettre, et il a entendu dire que cette communauté qu'il a fondée, donc à Corinthe, c'est lui qui l'a fondée, il a passé 18 mois après son fameux voyage à Athènes, il avait poussé jusqu'à Corinthe, il est resté à Corinthe, il a travaillé, etc. Et donc il écrit pour dire, j'entends dire toutes sortes de choses de votre communauté. Et en fait, effectivement, les agapes, en fait, hein, ce que tu appelles le repas paroissial, c'était une habitude donc de fêter l'Eucharistie avec un vrai repas. Et la communauté de Corinthe était assez populaire, hein. Vous savez que d'une communauté à l'autre, vous aviez des sociologies différentes, en fait. À Corinthe, vous aviez de riches Corinthiens, mais la majorité quand même des membres de la communauté étaient des gens, des petites gens. On dit que Corinthe, certains parlent d'un demi-million d'habitants, donc 500 000 habitants, moi, ça me semble exorbitant. J'ai regardé d'autres chiffres qui disent plutôt 40-50 000, mais enfin vous voyez, c'est une grosse ville. Et donc une communauté où on peut imaginer ce que ça donnait. Le repas paroissial, il y avait des gens qui mangeaient tout de suite,
Oui, parce que
qui avaient du vin, qui...
parce qu'il y avait quoi, 80% d'esclaves ou je sais pas.
Oui, mais tout à fait. Il y avait les deux, plus des deux tiers de la ville, c'était des esclaves. Hein. Voilà. Oh, ben c'est l'Empire romain était esclavagiste. C'était des prisonniers de guerre ou des esclaves
Non, mais même on dit,
par descendance.
la démocratie, etc. Ben oui, mais enfin, c'est la démocratie pour ceux qui sont des nobles, en fait. Parce que tout le reste, ben, le dire le prolétariat, et le sous-prolétariat, ils n'avaient pas le droit de vote, bien sûr. Et donc, ils étaient esclaves, esclaves de maître. Hein. Ils étaient, voilà, possédés de génération en génération, peut-être. Ce n'est pas simplement des prisonniers de
Oui,
guerre qui sont amenés. Ils étaient là depuis toujours. Hein.
C'est une vraie question, hein. Par exemple, les fameux ilotes qu'il y avait à Sparte à l'époque classique, c'est une population qui avait sûrement été réduite, donc il y avait sûrement une dimension ethnique, mais il n'y a pas toujours une dimension ethnique. Quand on dit esclavage, évidemment, on pense. Enfin, c'est pas la case de l'oncle Tom, évidemment. Hein,
C'est pas avec les fers aux pieds.
Voilà, ça faisait partie, c'était
C'était
des gens non citoyens. Voilà.
C'était les
Ils
prolétariats,
étaient
quoi.
non citoyens. C'était le prolétariat.
Donc, je peux vous lire le paragraphe d'avant, parce que c'est vrai que ça peut replacer dans le contexte. Hein. Je n'ai pas à vous féliciter, dit Paul. Donc, c'est le verset 17. Vos réunions, loin de vous faire progresser, vous font du mal. Tout d'abord, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, me dit-on, et je crois que c'est en partie vrai. Il faut même qu'il y ait des scissions parmi vous, afin qu'on voie ceux d'entre vous qui résistent à cette épreuve. Mais quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, car au moment de manger, chacun se dépêche de prendre son propre repas, en sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous donc pas de maison pour manger et pour boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu ou voulez-vous faire affront à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter? Ben non, sur ce point, je ne vous félicite pas. En effet, voici ce que moi, j'ai reçu du Seigneur, et donc c'est là que commence ce texte.
C'était des repas tirés du sac, comme on dit. J'adore cette expression, parce que, effectivement, quand il n'y a pas grand-chose, Il y a des gens qui, oui, qui devaient regarder les autres manger. Voilà.
Bah, ou bien c'était dans la maison de quelqu'un de riche qui, voilà, la réunion, il n'y avait pas d'église, à mon avis, de bâtiments construits à cette époque-là. C'était forcément ces réunions, c'était des réunions chez des nobles, chez des gens qui avaient une belle villa, en fait, forcément. Comment faire autrement? Et donc, peut-être que j'en sais rien, qui nous fournissait le manger et le boire. Hein. C'était peut-être le noble, ou alors il faisait ça à quelques-uns, j'en sais rien, moi, je sais pas. Mais enfin, bref.
Il y a un film à faire.
Ah oui, c'était des églises domestiques qui se visitent quelquefois. Il y a des endroits où on présente, c'est le cas aussi à Rome, où on dit tel endroit, il y avait une domus qui servait donc de lieu de rassemblement. Alors noble ou pas noble, d'ailleurs, ça
Noble ou
peut être
riche, en
des,
tout
parce que
cas, ça peut
dans
être
un
des
port,
riches,
c'est des commerçants, des gros commerçants.
Et donc, à mon avis, je ne sais pas, mais au début et à la fin de ce repas, on le voit là, il y a au début, il y a manifestement la fraction du pain, liturgiquement, et puis à la fin du repas, il y a la coupe. On nous dit, c'est à la fin du dîner, il y a la coupe, le geste de la coupe était séparé, en fait, ça venait d'être encadré, ce repas de paroisse, en fait. Alors effectivement, l'ambiance pouvait se détendre un peu au milieu. Voilà. Donc est-ce que quelqu'un nous lit alors ce paragraphe, 1 Corinthiens 11? Je suppose, alors c'est sympa.
Voici ce que moi j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le repas, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit sa propre condamnation.
Alors ça fait un peu peur, je reconnais, mais on va voir peut-être comment comprendre ça. En tout cas, au début, donc, il y a une insistance, hein, voilà ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis. Et puis aussi dans la nuit où il fut livré, parce que le mot livré, c'est ambigu quand en français, ça peut vouloir dire trahi, mais ça peut vouloir dire aussi livré comme on livre un colis, c'est-à-dire comme paradis domi, ça peut vouloir dire transmettre, en fait. Donc il y a trois verbes forts qui parlent de transmission. Donc c'est la question, c'est de fidélité à une tradition, finalement, une tradition qui remonte donc au Christ. Et donc il y a voilà, avec l'ambiguïté de livrer, la nuit où il fut livré, il y a l'idée que c'est Jésus lui-même qui est délivré comme son message, vous voyez. Déjà là, sa vie nous est livrée, comme son message nous est délivré, comme ce geste nous est délivré. Et c'est tout ça qui fait un package, un paquet commun, un paquet ensemble, voilà. Et quand on trahit un peu l'esprit, ben, on trahit le Christ lui-même. Donc c'est quand même. Il y a une grosse insistance quand même sur cet enjeu qui est présent ici. Alors il y a la démarche, effectivement, de Jésus qui est expliquée, mais à mon avis, ce n'est pas juste une anecdote, si vous voulez, c'est quelque chose qui nous est donné aussi comme importante, hein. Il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit. Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc il y a une petite. Voilà, dans la nuit où il fut livré, il prend du pain. Donc prendre du pain, ça pourrait être. Il prend son corps, il prend sa vie, Et puis il rend grâce, donc il y a une dimension de prière, et puis ensuite il le rompt. Là, ça devient finalement un peu ambigu, parce que il fut livré et rompu, on le sait, hein, c'est dans les évangiles, le lien est peut-être renforcé et plus clair. Voilà, il le rompit, c'est à la fois le pain, mais à la fois le corps rompu pour nous. Voilà, donc il y a là finalement un petit itinéraire, une petite démarche qui nous est proposée pour faire comme il a fait, faire en mémoire de lui. Parce que qu'est-ce que ça veut dire faites ceci en mémoire de moi? C'est quoi le faites cela qu'il faut faire? C'est pas évident, parce que cela, ça fait, faire quelque chose, ça fait référence à un verbe qui vient de faire, ou qui vient de dire, quoi. Donc là, c'est offrir son corps, finalement, non? Si on regarde la sémantique de la phrase, faites ceci en mémoire de moi, ben ça peut être ce qui est dit avant, c'est de prendre le pain, de rendre grâce, de le rompre et de le donner. Donc c'est prendre sa vie, rendre grâce, donner sa vie, donner de son être, de son engagement, et puis le donner aux autres comme quelque chose qu'on peut recevoir et transmettre. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. C'est toujours un peu ambigu, cela. Faire cela en mémoire de moi, c'est vrai que c'est sans doute plus que l'acte liturgique. C'est l'acte liturgique aussi, puisqu'ils sont en train de le répéter, en référence explicite à ce que Jésus a fait. Mais bien sûr, il y a plus que l'acte liturgique qui est là-dedans, puisqu'on rappelle que Jésus, quand il fut livré, prit du pain, etc., ça rapporte rien, sinon, si vous voulez. Si c'était juste l'acte liturgique pour l'acte liturgique, il n'y aurait pas besoin de nous rappeler tout ça. Moi, j'y vois plus l'itinéraire, finalement, qui est proposé, et ça va assez bien de prendre sa croix et de le suivre, cette suivance du Christ qui est proposée, c'est vivre de la vie du Christ, si vous voulez. C'est ce qu'on voit dans la suite, bien sûr, mais chez Paul c'est très fréquent, cette idée de voilà, vous êtes mort avec le Christ et ressuscité avec lui. On voit ça à chaque page, finalement, cette vie en communion avec le Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Donc à mon avis, c'est ça qui est aussi sous-jacent dans cette histoire, hein. Comment tu vois les choses, toi, Jérôme?
Alors, effectivement, bon, le parfum un peu d'avertissement, voire de menace à la fin, c'est ce qui avait été fini, c'est ce qui avait fini par être compris comme une injonction un peu rituelle dans l'Église catholique. C'était la raison pour laquelle les gens communiaient de moins en moins, d'ailleurs. Parce que l'idée, hein, qu'il fallait se confesser une fois par an pour faire ses Pâques ou pour communier une fois par an, ça vient de là, hein. Ça vient de ces versets-là. L'idée qu'il fallait être en état de grâce, etc., pour communier, c'était pour ne pas manger, pour ne pas boire, sa propre condamnation. Voilà. Alors, en fait, ce qui est dit, c'est très très beau. Je ne suis pas allé voir le texte grec parce que je ne l'avais pas sur moi là, tout à l'heure, mais celui qui mange et boit sans discerner le corps. C'est étrange parce que dans presque toutes les traductions, c'est ça qui est dit, sans discerner le corps. C'est-à-dire celui qui, au fond, dans le pain, ne voit pas le corps du Christ, celui-là mange et boit sa propre condamnation. Mais le corps, on sait très bien que pour saint Paul, c'est pas seulement le corps de Jésus, c'est aussi l'Église. Puisque c'est la raison pour laquelle il va développer par la suite en parlant du corps qui est l'Église. Donc en fait, quand on sait qu'en plus ce texte fait suite à un récit de division au sein de la communauté où les gens ne se respectent pas, où les gens finalement ne font pas Église, c'est-à-dire ne sont qu'un ramassis ou une juxtaposition d'individus qui sont indifférents les uns aux autres, en fait, c'est très fort. Celui qui mange et boit sans discerner le corps, c'est-à-dire sans discerner le corps de Jésus, mais sans discerner aussi que cette communion fait le corps, elle édifie le corps qu'est l'Église. Et c'est exactement ce qu'il va dire ensuite, avec les images, vous savez, de l'œil, de l'oreille, des membres, etc. Puis ensuite des différents charismes. La grande métaphore de l'Église comme corps du Christ, c'est là la source. Donc, quand il dit « celui qui mange et boit sans discerner le corps », il tient les deux choses à la fois. Il y a le corps de Jésus, effectivement, « ceci est mon corps », donc c'est le corps de Jésus, et c'est en même temps, c'est le corps qu'est l'Église, et dont Jésus est la, et dont le Christ est la tête. C'est intéressant parce qu'on est loin de considération sur la présence réelle, par exemple. C'est pas ça son problème. C'est pas de savoir si, si Jésus est dans l'hostie, comme disait Paul VI. C'est pas un problème de croyance théologique. C'est de discerner le corps, c'est-à-dire de comprendre au moment où on reçoit le pain qu'il en va de deux choses. Le corps de Jésus, ce corps qui a souffert, qui a été rompu lui-même sur la croix, et aussi du corps qu'est l'Église, et que c'est le même corps. Et que donc, quand on communie, on fait corps avec les autres, et on est absorbé dans le corps du Christ. D'ailleurs, il va le dire après, le baptême vous a incorporé. Donc c'est bien une question de corps, et c'est le même corps. Alors évidemment, on aurait tout fait d'y voir des jeux de mots, etc. Mais c'est quand même ça, sans discerner le corps, c'est-à-dire sans prendre conscience. On pourrait traduire comme ça. Je pense que dans la fameuse Bible en français courant, ils ont dû dire ça. Sans prendre conscience que mais c'est le corps.
La Bible en français courant, c'est systématiquement la traduction la pire qu'on puisse imaginer, parce qu'ils font du roman. Mais cela dit, pour aller dans ton sens, la page d'avant, en fait. Donc, si on prend 1 Corinthiens 10... 10-16 ou même allez, 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez par vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car nous participons à cet unique pain.
C'est dans le 10 ?
10, c'est la page d'avant, quoi. 10, 14, 15, 16, 17. Ouais. Et puis, bon...
Ça veut dire qu'on n'est pas dans une dévotion privée. On n'est pas juste dans le lien moi et Jésus. Ce que c'était devenu un petit peu en Occident. Hein. Ce qui n'est pas sans grandeur, d'ailleurs, la dévotion privée, c'est beau, à condition qu'elle s'ouvre à autre chose et qu'elle discerne le corps, le vrai corps, à savoir l'Église, dont nous sommes membres, et donc membres du Christ, et donc il y a un lien entre nous, comme il y a un lien entre l'oreille et le pied. C'est pas évident, parce que simultanément à cette dévotion privée, ça a été aussi, en Occident, l'apparition de l'individualisme, au fond. Hein, l'individualisme qui atomise un peu le corps social. Et on dit bien le corps social, d'ailleurs. Mais donc, pour qu'il y ait une vraie communauté, qui ne soit pas simplement un rassemblement hétéroclite, parce qu'aujourd'hui, on s'enchante de la diversité, etc. Mais la diversité, s'il n'y a pas une communion, s'il n'y a pas... une tête commune, comme dans un corps, s'il n'y a pas un organisme, comme dans un corps, c'est vain, et d'une certaine manière, c'est même très pauvre, c'est appauvrissant. Ce qui est stimulant, c'est l'idée qu'on s'incorpore, et que ce corps n'est pas seulement un corps fondé sur une idéologie ou sur des fantasmes politiques, mais que c'est un corps fondé par une personne qui nous laisse son corps et qui nous dit « je serai avec vous parce que vous serez mon corps ». Enfin, c'est assez fantastique. Et effectivement, oui, dans le chapitre 10, il fait bien le lien entre ces cellules d'Église que sont les communautés et puis le corps de Jésus. C'est en ça, d'ailleurs, que Jésus est présent parmi nous, c'est à travers nous. Sinon, on serait dans du spiritisme. Ce serait un Jésus. Pour que ce soit vraiment fidèle à Jésus, notre foi ne peut pas être spiritiste. Il faut que ça passe, que nous prenions conscience de notre dignité de membre du corps.
Alors effectivement, ceci est mon corps. Bon, ben c'est vrai que traditionnellement, chez les protestants, réformés surtout, on dit ceci est mon corps. C'est-à-dire qu'on dit, comme que Jésus dit, je suis la lumière du monde, si vous voulez. Il n'est pas un champ de photons. On est tous d'accord. Donc quand il dit ceci est mon corps, avec le pain qui est rompu, si vous voulez, c'est comme il dit je suis la lumière du monde. Et on comprend plus le « ceci est mon corps », comme le pain symbolisant le corps du Christ, qui effectivement est rompu pour nous. Et le « ceci est mon corps », c'est plus le résultat de la communion avec le Christ, la communion individuelle finalement avec le Christ, qui du coup conduit à une incorporation. C'est-à-dire que si chacun, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que si... alors oui, le oui à Dieu, il est quand même individuel, quand même. C'est-à-dire que, et on le voit bien ici, parce qu'il y a marqué, quiconque mangera le pain ou boira la coupe indignement, il y a un problème. Donc il y a un problème ou un bénéfice individuel dans ce geste de manger le pain ou de boire la coupe. Il y a quelque chose qui se joue d'une communion au Christ. Voilà. Mais le résultat, c'est une incorporation. Alors, là, c'est vrai que l'insister sur le fait de manger et de boire, il vient plus après qu'au cours du geste. Là, c'est ambigu, le fait de ceci en mémoire de moi. Finalement, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que le faire ceci, c'est même pas forcément le manger a priori, c'est plutôt prendre le pain, prendre son corps, rendre grâce, le rompre et le tendre à d'autres finalement, le fait ceci. Dans les évangiles, il y a marqué prenez et mangez, ceci est mon corps. Donc il y a une insistance qui est déjà plus liturgique sur le fait de prendre et de manger le pain finalement, mais c'est le pain rompu pour rompu. Ceci est mon voilà, prenez mangez, ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est dans Luc, je pense, quelque chose comme ça. Donc il y a le corps livré pour vous. Faites ceci. Donc c'est plutôt le livrer son corps, hein, le faites ceci. Et donc il y a une association au fait de prendre et de manger. De prendre et de boire la coupe. Mais ici, bon, y a une incorporation par le fait de manger et de boire en discernant. S'il n'y a pas ce discernement, ben effectivement, on peut se demander qu'est-ce qu'on a fait. Bien rempli le ventre et bien saoulé la gueule, comme le Paul le disait juste avant, finalement, dans sa remontrance. Alors ensuite, c'est vrai qu'au début, c'est beaucoup le « vous », finalement. Hein. « Faites ceci », c'est au pluriel, en mémoire de moi. Donc c'est communautaire. Le côté individuel vient un peu après... Mais c'est lui qui est peut-être un peu bloquant, finalement. Voilà. Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est faire ça chaque fois qu'on mange du pain et chaque fois qu'on boit. Donc, il y a une mémoire de l'alliance en Jésus-Christ qui doit être quasiment quotidienne, finalement. Peut-être qu'effectivement, il y avait au début ce repas communautaire... Il est là pour favoriser, travailler cette communion en Christ. Et que dans cette communion au Christ, il se fonde un corps d'église, un corps de l'humanité même. Mais ensuite, chacun va retourner dans sa maison finalement. Et il y a peut-être l'invitation que Je ne sais pas si la bénédicité vient de là ou c'était quelque chose qui remonte, qui existait avant. Je ne sais pas, parce que la bénédiction, le rendre grâce qu'il y a ici, ça se faisait dans la famille juive, en tout cas pour le Shabbat, peut-être même quotidiennement, je pense. Hein, je ne sais pas très bien ça exactement, il faudrait que je regarde. Mais
c'était les berakot, berachot.
Mais ça date de quand? C'est
C'est des bénédictions qui sont devenues l'offertoire de la messe catholique.
Oui, mais c'est
tu es béni Seigneur Dieu de l'univers, tu nous donnes ce pain, oui. Etc.
Ça date de quand ça? Ça date d'avant Jésus,
ah,
ou ça
oui,
date
oui.
des traditions
oui, rabbiniques.
Rabbiniques,
ouais, c'est il devait pas. Y avoir des choses. Ouais.
Donc,
sanctifier le quotidien.
Donc c'est vrai que du coup, peut-être qu'à travers ce geste, eh bien, il y a une façon... Bah peut-être de se rappeler que aussi on travaille cette communion même dans sa maison, même quand on mange tout seul son petit plat de nouilles, peut-être on peut, ou sa tartine du matin, eh ben on peut se rappeler ça, peut-être se travailler sur cette alliance et travailler aussi que nous ne sommes pas seuls finalement, travailler sur cette mémoire de l'alliance en Christ. Alors la nouvelle alliance, la nouvelle alliance en mon sang. C'est intéressant parce que l'alliance, la nouvelle alliance, c'est un thème de Jérémie 31-31, c'est connu, l'alliance nouvelle, Jérémie 31-31. C'est très fort, c'est-à-dire qu'il y a l'annonce qu'à la fin des temps, il n'y aura plus besoin que personne soit enseigné parce que tout le monde finalement connaîtra l'Éternel, connaîtra le Seigneur, sera plein de l'Esprit de Dieu et chacun sera prophète ou prophétesse. Et donc l'alliance nouvelle, c'est vraiment une alliance individuelle avec chacune et chacun, les plus jeunes, les plus âgés, les plus vieux de toute l'humanité. Alors c'est ce qui se réalise en Christ. Si on dit que Jésus est le Christ, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que cette étape décisive, cette étape ultime de la création de l'humain, on y est en fait. C'est intéressant de voir qu'il parle « Toutes les fois que je vous en boirai, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne ». Donc, puisque c'est l'alliance nouvelle et qu'on participe déjà à ce repas de l'alliance nouvelle, donc ce repas eschatologique, on dit en patois théologique, c'est-à-dire le repas de la fin des temps, quand on est déjà dans la fin de l'histoire. On y est déjà, puisqu'on participe déjà à ce repas de l'alliance nouvelle, mais en même temps, on n'y est pas encore tout à fait, puisque on attend le retour du Seigneur. Que le Seigneur soit pleinement, alors bon, on le voit un peu dans Corinthiens 15, c'est un peu mythologique et fantastique, mais c'est la fin de l'histoire où toutes choses seront enfin soumises à Dieu, et où donc il n'y aura plus de mal, il y aura plus personne n'aura de caries, plus personne n'aura de rhume, ni de gastro, parce qu'il paraît que c'est la mode en ce moment, de terrible, ravageuse, de cor aux pieds, de je ne sais pas quoi, de rhumatisme, ou de bronchiolite, pour chacun son âge. Donc, cette fin de l'histoire, nous on sait maintenant que c'est asymptotique et que c'est aussi bien dans 100 000 ans, si vous voulez, ou dans un million d'années peut-être. Mais à l'époque de cette lettre, à mon avis, se posait encore la question. Dans les épîtres les plus anciennes de l'apôtre Paul, il dit, mais bon, sauf si vraiment vous brûlez de désirs sexuels, sinon c'est pas la peine de vous marier, parce que de toute façon, bon, ça sert à quoi de faire des enfants si la fin du monde est la semaine prochaine, si vous voulez, c'est pas la peine. Et donc, même la première église de Jérusalem, eux, ils ont commencé à vendre les champs, ils ont arrêté de travailler, parce que la fin du monde, pour eux, c'était dans 15 jours. On les voit ensuite, un peu plus tard, dans les lettres de Paul, la première église de Jérusalem, qui était partie comme ça, ils font des collectes dans tout le bassin méditerranéen pour essayer de subvenir aux besoins de ces enthousiastes qui avaient vendu tout le capital, les champs, le fournil et la charrue avec. Donc, à cette époque-là, on est, je pense, déjà, vous voyez, dans cet entre-deux dans lequel nous sommes, finalement. On est dans le déjà-là et dans le pas encore. Mais ça, on le voit sans arrêt dans les évangiles. Hein. On le voit, par exemple, le royaume de Dieu, on dit « est proche » dans nos traductions, mais il n'y a pas marqué ça, il y a marqué « s'est approché ». Il s'est approché, il est tout près, il est là, mais il n'est encore pas là. Ou alors Jésus à la Samaritaine dans Jean 4, hein, l'heure vient et elle est déjà là, où ceux qui adorent le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Donc on est dans ce l'heure vient et elle est déjà là. Donc on participe déjà à la nouvelle alliance, et en même temps on attend qu'il vienne. Donc l'esprit est déjà donné, on l'aura cet esprit qui fonde, Corinthiens 12, 13, on l'a dans le chapitre d'après qu'on va lire. Mais l'esprit est déjà donné, on est déjà chacun, chacune et chacun individuellement éclairé par l'Esprit Saint, chacune et chacun est prophète et prophétesse. Mais bon, en même temps, on attend qu'il y ait plus. Donc on est dans cet entre-deux, et c'est sur cet entre-deux qu'on travaille, grâce à cette communion finalement, de vraiment travailler aussi bien individuellement pour que cette alliance nouvelle, qui est très très individuelle finalement, se réalise en chacun de nous. Et puis en même temps, Jésus fait déjà ce combat dont tu parlais, le combat de l'individualisme. Le problème, c'est que cette nouvelle alliance, elle est individuelle. En le Christ, on le voit, c'est très très individuel finalement. Le Christ, il rencontre personne après personne et il délivre une personne. Il délivre rarement une foule. Donc c'est personne après personne. Et là, il combat l'individualisme, Paul, finalement. Donc il dit, c'est sympathique finalement de communier à cette nouvelle alliance. Mais si en même temps vous discernez pas le corps, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que c'est vrai que l'alliance elle est individuelle, mais elle est individuelle, mais en même temps universelle. Elle est individuelle pas pour faire de l'individualisme, elle est faite pour faire ce qu'on verra dans 1 Corinthiens 12, c'est-à-dire une humanité réconciliée, une humanité où chacun a vraiment sa vocation propre, est vraiment en pleine forme comme un individu complètement particulier, personnel, unique en son genre, mais qui est fait pour travailler avec les autres, comme des pièces de puzzle sont faites pour donner un puzzle, comme un rouage de la montre ne fonctionne pas sans les autres. Si on en enlève un, il y a des chances que ça ne marche pas, en tout cas pour les montres toutes simples. Et donc, il essaye de tenir les deux, à mon avis, et c'est vrai que c'est un peu le défi de notre 21e siècle, peut-être de notre Église moderne. Alors ça a beaucoup varié, cette histoire de savoir si la communion est surtout individuelle ou surtout collective. Nous, dans les années 68, si je puis dire, dans l'Église protestante, c'est devenu beaucoup plus l'insistance sur le collectif. La communion, c'est communion entre nous, en fait. Et puis, bon, le Christ, il est sympathique parce qu'on pense un peu à lui, mais si vous voulez, c'est pas... Alors que c'est vrai que peut-être que le catholicisme a plus insisté sur le côté individuel, peut-être, je ne sais pas, de l'Eucharistie. C'est quelque chose de, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, aussi bien chez les uns, chez les autres, et c'est peut-être le bénéfice de l'œcuménisme, c'est de ne pas abuser dans un seul sens.
Nous
c'est d'essayer de tenir les deux.
Oui. Ouais. Nous avons eu nos Freudaines communautaires aussi.
Ah oui,
des 60, ça me rassure. 70. Et on finit par ne plus discerner le corps, justement, aussi, parce qu'on discerne son propre corps. Mais
ah oui.
C'est ça le risque, on s'auto-célèbre, effectivement. Et or, pour discerner le corps, il faut discerner quand même le corps ecclésial, mais aussi le corps de Jésus.
Oui, il faut tenir les deux.
Alors, la grande mode théologique dans l'Église catholique, dans les années 50, 45, 60, à la suite de l'école de Fourvière et des jésuites de Fourvière à Lyon et de la réédition notamment dans la collection Sources chrétiennes, la réédition des Pères de l'Église, c'était de revenir à l'Église corps du Christ, mais avec le risque d'y plaquer évidemment tout ce qui va avec l'idée du corps, c'est-à-dire la hiérarchie, une vision assez rigide, très, très verticale, très pyramidale. C'est pourquoi le Concile Vatican II a plutôt développé l'idée de peuple de Dieu. Dans la grande constitution du Concile Vatican II sur la théologie de l'Église, sur l'ecclésiologie, on parle de l'Église peuple de Dieu. Donc quelque chose de plus, en apparence, de plus démocratique dans le langage. Mais l'Église corps du Christ, en contrepoint, est toujours restée. Parce qu'il y a trois images, vous savez, hein, dans la théologie. On dit peuple de Dieu, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est trinitaire. Donc ce sont trois images qui remontent au Père de l'Église. Donc temple de l'Esprit, ça allait dans les années 60, l'Esprit soufflait, voilà. Peuple de Dieu, ça allait aussi parce que c'était les Trente Glorieuses et donc il fallait quand même que... honorer un peu la dimension populaire, voire prolétaire, etc. Corps du Christ, ça bloquait un peu, mais le Concile a maintenu cette idée. Donc il y a tout un chapitre de Lumen Gentium, la constitution sur l'Église, sur ce que l'Église dit d'elle-même. Comment ? Parce que quand on dit corps du Christ, les théologiens pouvaient laisser entendre toute l'ecclésiologie qu'on appelait sociétaire, c'est-à-dire l'Église comme société parfaite. La théologie de Robert Bellarmin au Concile de Trente, où l'Église se présentait. Il ne faut jamais oublier que l'Église parle d'elle-même. Quand l'Église a le droit de dire qui elle est. Et donc, elle se présentait au Concile de Trente, face justement au péril réformé, elle se présentait comme la société absolument voulue, telle qu'elle, vous imaginez, avec les cardinaux, les évêques, etc., voulue par Dieu depuis Jésus-Christ. Et donc, on tordait un peu l'histoire en montrant que tout ça existait depuis toujours, que Pierre était bien pape, etc. Donc, alors c'est très beau, mais c'est quand même, c'est un peu une idéologie, hein, c'est une vision qui cherche à défendre, parce que vous imaginez que derrière tous les mots que j'emploie, il y a du pouvoir. Donc il cherche à protéger un certain nombre de zones de pouvoir qu'on ne veut pas trop mettre en risque ou en péril. Voilà. Alors, cette image corps du Christ est revenue grâce à la théologie, ce qu'on appelait la nouvelle théologie des années 40-50, mais de manière beaucoup plus corporelle, en montrant que c'est bien un corps, mais un corps vivant, pas un corps mort, et pas juste une organisation, si belle soit-elle, pas seulement une organisation hiérarchique, humaine, mais un corps animé par l'esprit. Mais on a quand même maintenu l'idée du corps. Or, qui dit corps, dit qu'il y a des membres inférieurs aux autres, etc., ce que va dire Paul. Et quand on commence à dire qu'il y a des membres inférieurs aux autres, quoi qu'on leur reconnaisse une dignité, ça veut quand même dire qu'il y en a d'autres qui commandent aux autres. Voilà. Et c'est une image, donc, qui est tout sauf démocratique. Et l'Église n'est pas une démocratie, d'ailleurs. Mais vous voyez bien que la théologie peut toujours être le bras intellectuel d'une conception de domination.
Pardon ?
C'est là où le diable se riche.
Dans les détails. Mais alors, bon, cette menace qui est à la fin, ce qui peut sembler menaçant, à mon avis, ce n'est pas une menace que du coup Dieu nous condamnera, nous vomira ou je ne sais quoi. C'est plutôt, bon, je veux dire, celui qui ne discerne pas ça, il passe à côté, si vous voulez. Je pense de quelque chose qui est essentiel et qui permet effectivement de bénéficier de cet apport fondamental que le Christ veut apporter à chacun. Donc je pense que c'est plutôt ça. Parce que si vous voulez, de toute façon, pour Paul, je ne pense pas qu'on soit dans cette idée. Quand même, le salut est quand même par la grâce, et ça, catholiques et protestants, on est aujourd'hui d'accord. C'est pas que je pense, du coup, Dieu va mettre, va nous griller sur place si on ne fait pas bien comme il faut, mais simplement, quand on est coupé. De quelque chose qui est essentiel, ben on n'en bénéficie pas. Voilà. C'est plutôt ça la question. Alors cela dit, tu dis que ça a fait peur longtemps aux cathos, mais moi je connais des personnes âgées qui ont extrêmement rarement communié et qui n'ont pas communié pendant 30-40 ans à cause de ces versets qu'on disait dans la liturgie du culte protestant et qui effectivement étaient extrêmement dissuasives. Aujourd'hui, on dit plutôt... parce que là, celui qui mange indignement se rendra coupable, mais qui serait digne de participer à ça? Et donc, nous, comme vous, on dit dans la liturgie de la communion, Seigneur, je ne suis pas digne, ouais. La phrase du centurion, hein, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais digne seulement une parole et je serai guéri, quoi. Bah, ce qui est magnifique, et ce qui est beaucoup plus dans l'idée de Jésus-Christ que ça. Que de dire, voilà, si je mange indignement, bon, mais alors ça veut dire quoi? Effectivement, c'est c'est pas que le Seigneur va nous rejeter, c'est plutôt que ben si on le fait sans avoir aucune conscience de ce qu'on fait, ben ça marche pas, quoi, voilà. Alors que chacun s'éprouve soi-même, ben, c'est une bonne idée. De toute façon, personne peut le faire à la place d'un autre. Je pense, hein, de toute façon, discerne soi-même. Voilà.
On lit la suite.
On peut lire 1 Corinthiens 12.
C'est rigolo.
Qu'est-ce qu'il nous lit? Ah, merci beaucoup, oui.
Prenons une comparaison. Le corps est un, et pourtant, il a plusieurs membres. Mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est de même du Christ. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », cesserait-il pour autant d'appartenir au corps ? Si l'oreille disait « Comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour autant d'appartenir au corps ? Si le corps entier était œil, où serait lui ? Si tout était oreille, où serait l'odorat ? Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables, c'est à eux que nous faisons le plus d'honneur. Moins ils sont décents, plus décemment nous les traitons. Ceux qui sont décents n'ont pas besoin de ces égards. Mais Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un commun souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.
Ben, oui, c'est un très beau passage, quand même, ce passage du corps. C'est vrai que c'est quand même une question, parce que... Mais je trouve que c'est très moderne, c'est très contemporain finalement. Quoi ? Ben oui, c'est, je sais pas, c'est formidable parce que si vous voulez la question, c'est la question de l'individualisme, elle est bien posée là. Et savoir qu'est-ce qui fait division, hein, c'est le mot schisme en fait, hein, dans le verset 25. Qu'est-ce qui fait division ? C'est pas être différent par rapport aux autres, au contraire. Parce que ça, c'est une question. Qu'est-ce qui fait communauté ? Qu'est-ce qui fait église finalement ? Est-ce que c'est l'unité, on l'a longtemps cru finalement, mais en fait non, c'est pas l'unité, parce qu'au contraire c'est que finalement chacun s'assume lui-même. Si le pied dit ben, comme je suis pas une main, je fais pas partie du corps, il dit mais c'est catastrophique, parce que je veux dire la main a besoin du pied aussi, et le pied de la main. Donc si chacun refuse d'être lui-même pour être comme l'autre, ou si on fait un compromis mi-main, mi-pied, ça ne va rien donner. Donc le schisme, la division, ce n'est pas tant d'être différent, c'est plutôt de ne pas avoir... Alors qu'est-ce qui fait l'unité, voilà ? C'est de cracher sur ce qui fait l'unité. Ce qui fait l'unité au verset 13, on a tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps finalement. C'est ça, c'est l'esprit qui fait l'unité. Donc c'est quelque chose qui est interne, c'est pas quelque chose qui est externe. C'est pas une frontière qui vient marquer la limite entre les bons et les mauvais. Une frontière de morale, une frontière rituelle, comme la savoir si on mange ou pas indignement, c'est pas une frontière de croyance, de dogme, de je sais pas quoi. C'est l'esprit, c'est l'esprit en chacun finalement. C'est ça, puisqu'il y a un seul esprit, ça forme un seul corps. Et puis il y a au verset 25, il y a le commun souci les uns des autres. C'est intéressant, si vous voulez, ce commun souci. C'est ça qui fait que tous les membres. Un membre souffre, les autres vont souffrir. Un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Alors il y a un autre passage, c'est dans Éphésiens 4, il y a aussi cette idée du corps du Christ. Il insiste beaucoup sur les articulations et sur les tendons entre les différents membres. Mais finalement, ça c'est très juif, si vous voulez, de dire ça. C'est très la façon juive de voir l'alliance. Parce que l'alliance, on sait, hein, le mot bénédiction, bénédiction de Dieu, Dieu qui nous bénit, nous qui nous bénissons Dieu, c'est le mot genou, Beruk, c'est bénir, et c'est le même mot que le genou, l'articulation. Donc c'est créer une articulation entre Dieu et nous, c'est-à-dire à la fois effectivement des tendons qui gardent un lien ferme, qui peut être le commun souci les uns des autres, et puis l'articulation, la souplesse, la liberté qu'on accorde à l'autre de pouvoir avoir sa propre vocation, ce propre succès, donc cette liberté, cette indépendance, cette individualité finalement. Il faut avoir les deux finalement, il faut avoir cette individualité et ces liens, et donc il faut à la fois l'esprit qui souffle et qui fait que l'autre sera toujours surprenant, sera toujours différent de moi, sera toujours déroutant, sera toujours créateur, créatif, et puis le commun souci qui nous tient ensemble et qui peut faire fonctionner le corps.
Vous disiez Descartes, c'est ça ?
Descartes.
Oui, parce que je suis pas tout à fait. Parce que Descartes, quand même, les animaux machines, etc., c'est l'idée quand même d'un corps mécaniste. Il y a les deux substances, il y a la substance pensante, et puis il y a la substance étendue, qui est quand même inerte d'une certaine manière, alors qui communique par la fameuse glande pinéale. Hein, c'était ça la thèse de Descartes, c'est un peu farfelu, mais. Ici c'est un corps organisme quand même, donc alors il connaît rien du cerveau et tout ça, mais en fait toutes les connaissances qu'on a accumulées depuis vont plutôt dans le sens de Paul, à savoir qu'effectivement il y a une sorte d'unité centrale qui commande à tout, mais je pense que c'est une vision quand même plus unitaire que chez Descartes, qui est quand même dualiste et...
oui.
Parce qu'ici, tout est en interaction. Alors, il y a quand même un risque, et qu'il pointe d'ailleurs, parce qu'il donne, c'est pour ça que je disais que c'était un peu drôle, il donne la parole à l'oreille, au pied, etc. L'autre jour, on avait Philippe Le Guillou, Serge Badal connaît bien, qui est un de nos paroissiens qui est tombé sur ce texte, qui est un paroissien, qui est écrivain, etc. Et qui est un peu, évidemment, qui connaît très bien ce texte, mais c'est toujours, on ne sait pas trop comment lire ça, quoi, parce que c'est... C'est un petit peu... c'est très imagé. Et il était un peu déconcerté par... il l'avait lu, mais il ne l'avait jamais proclamé, proféré. Et on voit bien quand même qu'il y a un risque dans toute cette histoire. C'est que le dialogue entre les membres ne fonctionne pas bien. Qu'ils soient un peu perturbés. Au fond, l'oreille et le pied ne se croisent pas tous les jours, même s'ils travaillent ensemble. Finalement, ils passent toute leur vie quand même très très loin l'un de l'autre. Donc il y a le risque du reproche, c'est-à-dire que l'oreille reproche au pied de ne pas être une oreille. Et au fond, c'est ce qu'on fait sans cesse quand on juge les autres, qu'on les trouve trop ceci ou trop cela. C'est précisément qu'on n'a pas admis et qu'on n'a pas accepté cette différence. Aujourd'hui, la différence est devenue un slogan partout, à l'éducation nationale, etc. Mais à un moment, c'est onéreux. Hein? Il faut y aller. Ce n'est pas seulement une reconnaissance comme ça, verbale. C'est un assentiment. Il faut accepter que l'autre... quand on est un pied, il faut accepter que l'oreille soit une oreille. Et que forcément, elle ne fait pas la même chose. Et que l'œil, c'est un œil. Et on ne peut pas reprocher à un œil de ne pas être un orteil. Or, dans 90% de nos jugements, c'est quand même ce qu'on fait. Quand on reproche à des gens, de ne pas être assez empathique, par exemple. Ah oui, parce qu'il y a des membres qui sont plus empathiques. Ils ont ce charisme, on va voir ça après. C'est un des dons de l'esprit. Ou on reproche à des membres de ne pas avoir assez la foi. Bah oui, il y a des membres qui ont plus la foi, d'une certaine manière, qui sortent. C'est peut-être... pas une crise de foi, mais y a des gens qui sont plus doués pour des qui sont plus spontanément peut-être dans les choses de l'esprit, etc. Et je crois que c'est une image magnifique. Et donc, il y a le risque du reproche, et puis il y a le risque de la jalousie. C'est-à-dire, effectivement, le pied qui aurait aimé être une oreille, et qui, toute sa vie, va être un pied. Alors, il parle en plus des parties honteuses qui sont, c'est vrai, les plus... Parce que c'est les, voilà, celles qui sont le plus à l'honneur, c'est-à-dire les plus cachées, celles qui sont habillées, finalement. C'est assez beau quand il dit ça, hein. C'est celles que l'on ne montre pas, qui sont bien à l'abri, alors que finalement, les parties nobles, elles sont à la vue de tous, exposées aux rigueurs du froid, du soleil, etc. Oui, un nez qui aurait voulu toute sa vie être une cheville, c'est quand même rude. Or, on ne change pas. On ne change pas tant que ça. On peut comprendre l'autre. On peut comprendre qu'il a sa fonction, etc. Mais le nez va rester un nez. Et je trouve que c'est très, très beau parce que ça dit beaucoup sur nos communautés, sur la vie paroissiale. Voilà, il faut un orteil, il faut un petit doigt, il faut une oreille. Guillaume.
J'avais une question, c'est est-ce que dans ce texte, tu vois quelque chose de hiérarchique entre les membres ?
Ce qui est étonnant, et ce qui, à mon avis, casse un peu la hiérarchie, c'est que... justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'image du corps pouvait être lue à travers une idéologie hiérarchique. Si on dit que la tête, c'est... Mais Paul a bien soin de dire que la tête, c'est Jésus, de toute façon.
Mais ici, il ne le dit même pas, en plus.
Oui, il le dit ailleurs. Et Jésus est à la fois le corps et la tête. C'est ça qui est étonnant.
Non, ici, Jésus est le corps, en fait.
Oui, il est le corps.
Et pas la tête.
Alors, l'image de la tête, c'est peut-être pas...
C'est dans Colossiens, si. C'est dans Colossiens, ou c'est dans d'autres passages. Mais ici, effectivement, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas d'hiérarchie. C'est le Christ et le corps.
Mais donc, quand il écrit Colossiens, il y a Guillaume Burgelin qui a eu le temps de lui demander peut-être la question. Il lui a dit, mais alors, qu'est-ce que tu fais? Qui pilote tout ça?
Ben, c'est l'esprit, ici, finalement.
Oui, bien sûr.
Mais donc, c'est interne à chacun, puisqu'on est dans le cadre de la nouvelle alliance, de l'alliance nouvelle de Jérémie. L'esprit est en chacun. Et donc c'est l'esprit de l'intérieur de chaque membre, c'est un esprit délocalisé finalement. Mais c'est un peu le modèle qui est donné à la Pentecôte. Quand on regarde la Pentecôte, il n'y a pas une énorme flamme qui est donnée pour l'ensemble. Ils insistent 2-3 fois dans le récit de la Pentecôte, vous le vérifierez dans quelques semaines, dans 7 semaines, non ? Ou 8 peut-être, parce qu'il y en a avant Pâques. Mais cela dit, la flamme, elle se divise en autant de petites flammes qu'il y a de personnes. Mais ça, c'est l'alliance nouvelle qui est racontée là. C'est-à-dire que voilà, la flamme de l'esprit est donnée à chacun des membres. Et c'est cette flamme qui est donnée individuellement à chacun des membres qui fait le corps, l'ensemble. Et là, je ne vois pas effectivement de hiérarchie. Il y a au contraire, même ceux qui paraissent les plus faibles sont nécessaires et sont donc aussi précieux que ceux qui sont les plus décents. C'est vraiment,
il faudrait savoir ce qu'on appelle hiérarchie, parce que hiérarchie, ça peut être aussi noble. Dans l'Église, normalement, le mot souvent est mal compris, parce que le mot veut dire simplement que le pouvoir revient, et le pouvoir est sacré, donc il est à Dieu, et donc ça n'est pas normalement une oligarchie. Mais ce que veut dire... parce que effectivement, il n'y a pas de domination au sens séculier du mot. C'est-à-dire, il n'y a pas un groupe qui peut dire « Nous, on est un peu mieux, on est quand même les oreilles. » Donc, il n'y a pas de domination, mais il n'y a pas non plus de faux égalitarisme. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'il ne dit pas que tout est pareil. Parce que ça, c'est aussi, c'est l'autre... d'un côté, il y a la captation, c'est-à-dire un groupe confisque en disant « nous, on est la main, c'est quand même autre chose que la cuisse ». Et de l'autre côté, c'est un égalitarisme qui dirait « mais vous êtes tous... » qui endormirait, qui anesthésierait en disant « on est tous pareils », etc. On a tous la même dignité, mais il y a des différences. Et accepter ces différences, d'une certaine manière, ce n'est pas facile d'ailleurs. Mais voilà, accepter d'être un second, je crois que c'est... Voilà, certains comprennent voilà, que ça fait partie de leur vocation. Accepter d'être un chef, ce n'est pas facile. Accepter d'être pape, je pense que... On sourit toujours de cet exemple parce que... Mais vous savez, la fameuse chambre des larmes où il se prépare... voilà, et maintenant, on a quelques témoignages sur le dernier pape. Je crois que c'était de cet ordre-là, parce qu'il savait ce que c'était. Donc, voilà. Mais là, je crois que la difficulté, la grande difficulté, d'ailleurs, c'est à mon avis quasiment impossible, c'est d'accepter d'être là où l'on est sans regarder... sans reprocher à l'autre d'être ce qu'il est, ou sans jalouser l'autre parce qu'on voudrait être... Voilà, il y a un moment où... Mais c'est quand même ça, hein, ce que Bérulle appelait la sainte indifférence, c'est-à-dire, voilà, il y a des moments où on sert et des moments où on commande, et... je sais pas, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça.
Ben, c'est vrai que, de toute façon, moi, je pense qu'effectivement, dans l'Alliance Nouvelle, et en particulier dans ces textes, l'Esprit est distribué à chacun des membres, même les plus vils. Et donc, plus vils, ils disent, ben non, y a pas, ils ne sont pas plus vils, puisque chacun, comme tu dis, a sa vocation personnelle. Le problème, c'est quand le doigt de pied se prend pour un œil, ou que l'œil, voilà, où il se dit, parce que, voilà, donc il y a le fait de se dénigrer soi-même ou de dénigrer l'autre qui pose problème dans l'exercice de ce corps. Mais moi, j'y vois pas du tout de subordination ni évoquée, ni même permise. Parce que, si vous voulez, chacun son rôle. Le pied, c'est pour avancer, la main, c'est pour créer. Donc peut-être il faut d'abord avancer, puis ensuite créer. L'oreille et l'œil, ben, on commence d'abord par entendre, par l'écoute, et puis peut-être en se déplaçant, ben, on peut ensuite vraiment voir avec l'œil, ou on peut voir de loin, et puis, enfin bref, tout ça c'est complémentaire, et je ne vois pas une subordination du tout dans cette idée. Au contraire, j'y vois un commun souci les uns des autres, c'est vraiment mutuel finalement, c'est un mutuel souci, c'est pas... Quoi ?
Parité, oui. Ça rejoint les débats actuels sur égalité ou équité aussi. Est-ce que l'égalité, c'est la même chose pour tous de manière arithmétique, non, un peu sûr, à la française, oui. Bon, parce que voilà. Ou bien est-ce que c'est, comme Aristote le dit, est-ce que l'égalité, juste la vraie égalité, n'est pas une équité, c'est-à-dire qui est proportionnée à la personne ? C'est certain que si on fait 100 kilos ou si on en fait 40, l'égalité, ça n'est pas forcément de manger exactement la même chose. La justice, en tout cas, n'est pas forcément l'égalité arithmétique. Bah, ça, ce serait assez polynien.
Mais le droit français, c'est ce qu'il fait quand même. Parce que si vous voulez, quelqu'un qui a tué père et mère, il va être dans une prison. Ce n'est pas tout à fait le Club Med, mais il va coûter à la société française, je veux dire, des centaines d'euros par jour. Qu'on va pas donner aux pauvres qui triment comme un fou sous le soleil à poser des bordures sur le bord des routes. Oui, c'est vrai. Je veux dire, il y en a qui ont plus besoin que d'autres, bah ils auront plus. Et c'est normal finalement. C'est notre droit malgré tout a quand même été. C'est quand même du jus d'évangile. Ça nous semble une évidence. Par exemple, les droits de l'homme. C'est loin d'être une évidence. C'est du jus d'évangile. Alors, on prétend que c'est universel, mais c'est universel qu'à l'ombre de notre clocher, si vous voulez, parce que dans d'autres pays, ils disent, mais écoutez, vous prétendez que c'est universel, ça, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Donc, c'est du jus d'évangile, en fait. Et là, on a ça, quand même. On a le ferment de quelque chose comme ça, et ça a mis longtemps, je pense, parce que... À diffuser finalement, hein, parce que là il dit nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juif ou grec, esclave ou homme libre. Bon, il manque homme et femme, ou c'est ailleurs, mais faut voir à quel point c'est subversif, si vous voulez, c'est incroyablement subversif, hein. Esclave ou homme libre, mais c'est C'est fou, je veux dire. Je ne sais pas si on peut se rendre bien compte de ce que ça peut ressembler, ce que ça peut donner comme bouleversement. Même il y a, je dirais, il y a 200 ans en France, mais même plus que ça, si vous voulez. Il y avait des... Bon, on naissait riche, noble, et c'était normal. Et puis le pauvre naissait pauvre, et puis manant, et c'était normal. Et c'était quasiment une nature, si vous voulez.
Mais il y avait quand même une... Comme on était dans une société quand même qui connaissait l'Évangile et qui reconnaissait dans le pauvre Jésus-Christ, hein, Matthieu 25, ce que vous avez fait au plus pauvre, c'est à moi que vous avez fait, les prédicateurs apportaient quand même... Il y avait des correctifs.
Oui.
Non, mais on culpabilisait la cour. Quand on lit Bossuet, c'est ça, il le fait sans cesse. Il le fait avec un aplomb qu'on n'oserait pas faire aujourd'hui. Comment ? Fénelon, bien sûr, vous n'aimez pas Dieu, etc. Oui, oui, oui. Mais on disait en chair des choses qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui. Parce que c'était admis. Et c'était le rôle, d'ailleurs, des trois ordres, le rôle du clergé, qui était d'ailleurs le premier ordre pour cela, parce qu'il était là pour rappeler, justement, ce jus, ce bain. Alors, c'était une société de caste, bien sûr. Donc de ce point de vue là qui n'était pas chrétienne, qui était indo-européenne, mais il y avait quand même la mémoire de ça. Enfin, je pense,
Moi je vois quand même un danger dans cette histoire, si vous voulez, des vocations personnelles, c'est de tellement l'éclater, c'est que telle femme elle a la vocation de pondre des gosses, et puis telle autre femme elle a la vocation de louer le Seigneur dans un monastère, et que finalement il y a cette spécialisation à l'extrême, alors que finalement chacun est appelé, à mon avis, à être à la fois Marthe et Marie, à la fois la contemplative et l'active. Et donc, y a quand même... Oui, d'accord, il y a des vocations personnelles. Y en a qui est un artiste, musicien, et l'autre qui n'a absolument aucun don pour la musique, mais il est plutôt un télon. Et puis, il y en a qui ont tous les dons, et puis il y en a qui n'ont pas beaucoup des dons. C'est-à-dire, donc, c'est mal réparti. Mais il y a quand même... Ce don, à mon avis, qui est confié à tous, c'est à la fois de partager la contemplation et l'action, à la fois de vivre de l'esprit qui est donné à chacun, et en même temps d'avoir ce souci, ce commun souci les uns des autres, donc d'être dans une action au service des autres et dans un travail avec les autres. On a tous, à mon avis, ces deux pôles que Paul souligne aussi, qui contrebalancent un petit peu, peut-être, cette... Il y en a pas qui pensent à la place des autres et puis d'autres qui doivent agir à la place des uns, si vous voulez. C'est pas comme ça que ça marche. Je crois que là, ces deux pôles d'esprit, donc de contemplation, de méditation, de prière, et puis ce pôle d'action, de service de l'autre, de vie dans le monde, doivent être tenus par chacun et chacune et chacun, à mon avis. Bon, je dis ça, c'est un peu contradictoire parce que j'aime beaucoup aller faire des retraites chez les moines, mais d'un autre côté... C'est justement là qu'ils ne sont pas cloîtrés, ils sont cloîtrés, oui, mais ils sont au service de l'autre à leur façon quand même. Ils ne le font pas d'une manière... peut-être que les chartreux abusent un petit peu, je ne sais pas. Mais bon, moi je ne dis pas ça pour...
Tu vas où ?
Parce qu'on est à l'heure chez les trappistes. Chez les trappistes. Non, mais même si tu voulais, eux, ils voient, je pense, leur vocation comme étant un témoin quand même. Ils ne font pas ça... simplement, individuellement. Il y a une prière pour le monde, et puis il y a... Mais enfin... Bon, on ne peut pas parler des cas individuels. Globalement, je dirais qu'il y a à la fois l'esprit, dimension spirituelle pour chacun, et la dimension de service, de vocation dans le monde, qui est partagée par tous et toutes, finalement. C'est dans les décrets d'application que le service sera plutôt de telle et de telle façon. Voilà. Est-ce qu'on lit quand même un Corinthiens 15 ?
Oui, on va le regarder, il reste quelques minutes, pour savoir notre destinée ultime, parce que c'est sur la résurrection.
C'est sur la résurrection. Alors peut-être
nous sommes des corps aussi, nous, alors. Hein.
En introduction, je dirais, si vous voulez, la résurrection, bon, on peut souvent penser que ça parle de la vie future, mais pas seulement, bien sûr. Hein. Parce que comme on disait, là, si vous voulez... On est à la fois dans la nouvelle alliance qui est déjà en train de se réaliser et qui en même temps est attendue. La résurrection pour Paul, c'est pas simplement à la fin des temps, c'est pas simplement après la mort. Il y a bien des passages où il dit, Nous sommes morts avec le Christ et nous sommes, vous avez été ressuscités. Ce n'est pas nous sommes ressuscités, c'est vous avez été ressuscités. Nous avons été ressuscités. Donc c'est dit au passé et au passif. Voilà. Donc, quand il parle de cette transformation du corps, de notre corps en corps glorieux, en corps spirituel, c'est quelque chose qui est dit individuellement pour chacune et chacun dans la conversion, dans ce travail de l'esprit en nous. Et c'est dit aussi du corps social qui devient un corps spirituel aussi, qui devient église. Et c'est dit pour la vie future aussi. C'est à mon avis, c'est à trois niveaux en fait. C'est à trois niveaux. Alors que nous, on a tendance à lire ça comme étant le film de ce qui va se passer après la mort. Mais non. Mais non. Est-ce qu'on le lit quand même? Quelqu'un? Oui? Ah ben génial, alors super. Si vous soufflez au milieu, on remplacera, on trouvera un remplaçant.
Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. D'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Enfin viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute autorité, tout pouvoir, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais quand il dira « tout est soumis », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui, lui, a tout soumis. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que chercheraient ceux qui se sont fait baptiser pour les morts? Si, en tout cas, les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi à tout moment sommes-nous en danger? Tous les jours je meurs, aussi vrai, frère, que vous êtes ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. À quoi m'aurait servi de combattre contre les bêtes à Éphèse si je m'en tenais à la vue, à des vues humaines? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes humeurs. Revenez sérieusement à la raison et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, je le dis à votre honte. Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Insensé, toi que tu sèmes, ne prend vie, toi, ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu de blé ou d'autre chose. Puis Dieu, lui, donne corps comme il le veut, et à chaque semence de façon particulière. Aucune chair n'est identique à une autre. Il y a une différence entre celle des hommes, des bêtes, des oiseaux, des poissons. Il y a des corps célestes et des corps terrestres, et ils n'ont pas le même éclat. Autre est l'éclat du soleil, autre celui de la lune, autre celui des étoiles. Une étoile même diffère en éclat d'une autre étoile.
Il en est ainsi. Quelqu'un continue? Ah, merci beaucoup.
Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps animal, on respire corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, fut un être animal doué de vie. Le dernier Adam est un être spirituel donnant. Mais ce qui est premier, c'est l'être animal. Ce n'est pas l'être spirituel. Il vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. Tel a été l'homme terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est l'homme céleste, tels seront les célestes. Et de même que nous avons été à l'image de l'homme terrestre, nous serons aussi à l'image de l'homme céleste. Voici ce que j'affirme, frère. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, ni la corruption hériter de l'incorruptibilité. Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur.
Un petit mot ?
Oui, vas-y.
Non, c'est juste pour bien comprendre le texte. Je disais au début de la séance qu'il s'adresse à des Corinthiens, donc à des païens. Et effectivement, les Grecs, ou les Romains d'ailleurs, ne peuvent pas croire en la résurrection. Hein. Ils peuvent croire en l'immortalité de l'âme. Vous voyez bien la nuance. Je dirais que de ce point de vue-là, nous sommes assez latins et grecs aussi, hein, même si on n'ose pas se le dire. On croit plus facilement en l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire une vie dans un au-delà, plutôt qu'en la résurrection. Alors, Paul est un juif, il a une vision unitaire. Pour lui, la résurrection, c'est ce que croyaient les pharisiens, c'est la résurrection des corps. Hein. Mais il s'adresse à des gens qui ne peuvent pas croire, qui ont une vision dualiste, pour qui le corps est corruptible, d'où l'importance de ces mots, et Dieu, l'un des attributs de Dieu ou du divin, c'est l'incorruptibilité, et il ne peut y avoir aucun point de contact entre les deux. C'est pour ça qu'il utilise des formules comme « il faut que cet être corruptible revête l'incorruptibilité ». Il cherche des images pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas ce strabisme divergent. Mais un grec, comme un latin, structurellement et culturellement, ne peut pas entrer dans cette logique. D'ailleurs, avant de connaître Corinthe, il est allé à Athènes, il a prêché la résurrection et on lui a dit « voilà, cause toujours hein. ». Parce qu'effectivement, les Grecs, il ne faut pas oublier la supériorité éclatante intellectuelle du monde grec face au monde juif. Donc il ne faut jamais oublier ça. Hein. C'est comme, je ne sais pas, si une nouvelle religion arrivait d'un petit état de l'Oural et allait à Princeton ou dans une grande université aux États-Unis pour dire « c'est nous maintenant qui avons la vérité, vous c'est fini, Donald Trump, tout ça, terminé ». Évidemment, vous imaginez, c'est de cet ordre-là. Ils ont vu débarquer un petit rabbin comme ça. Bon. Et donc, la résurrection n'est pas audible. Et voilà. Et lui, il annonce la résurrection et il le fait. Alors, c'est un texte extraordinaire. Hein.
Sauf que le petit rabbin, il a la double culture, il a le double cursus. Hein. Il est à la fois effectivement formé chez les meilleurs rabbins et il est à la fois philosophe grec. Et donc, il en connaît un brin dans cette double culture. Et là, il essaye. Ben de transcrire sa foi dans la culture grecque, ce qui peut aussi nous montrer un exemple dans la manière de parler aussi à nos contemporains. En tout cas, je trouve que ce texte est spécialement beau. Pourquoi ? Parce que Il annonce que tous recevront la vie, tous seront transformés. Donc il y a quelque chose qui me plaît bien, si vous voulez, c'est l'annonce d'un salut universel, finalement, qui est annoncé ici. Et puis c'est non culpabilisant, parce qu'il y a marqué, finalement, le corps méprisable, le corps pourrissable, etc. Ben oui, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le premier Adam. Mais finalement, cet Adam... c'est qu'une première étape dans cette... voilà, il y a une deuxième étape qui est celle d'un corps spirituel. Et à mon avis, voilà, le Christ, il déclenche cette deuxième étape de la création qui fait que nous devenons... alors, c'est pas qu'on était avant des êtres de chair, des animaux, et puis qu'après, dans la vie future, on devient de purs esprits. C'est déjà dans cette vie présente qu'il y a quelque chose de l'esprit qui infuse, et nous sommes en cette vie présente à la fois, finalement, le premier Adam et recevant déjà quelque chose de la transformation du deuxième Adam en Christ. Et cette deuxième dimension, elle, a une dimension d'incorruptibilité, d'immortalité, ce qui sont effectivement des concepts beaucoup plus grecs que hébreux. Mais c'est là peut-être qu'aussi il s'écarte peut-être de la vision purement pharisienne où on attendait la résurrection de la viande. Et là, il dit quand même aux juifs du canton, il dit, mais il ne faut pas rigoler, la viande, elle n'hérite pas de l'immortalité ou de l'éternité. La viande reste de la viande. C'est le premier étage de la fusée dont le deuxième étage a besoin aussi, mais... quand même, le satellite, il arrive en orbite, il sera sans le premier étage quand même. Donc c'est un peu ça, si vous voulez. En ce moment, on est dans l'entre-deux, où nous sommes à la fois corps charnel et corps spirituel. On est à la fois les deux. Et
corps psychique, il dit d'ailleurs.
C'est corps psychique. Ouais.
Alors, animal, ils traduisent par animal, ce qui est très bien parce que...
Ce qui est pas mal traduit, oui. Parce qu'on pourrait traduire l'âme finalement, mais en fait c'est la nefesh hébraïque, c'est la nefesh, et donc c'est la vie finalement, c'est l'être vivant, c'est l'être de la personne. Ouais. Donc on est créé comme un être, comme une créature, et puis finalement par l'esprit, on devient un esprit vivifiant, à l'image du Christ. Donc on devient créateur, on devient source de vie, et c'est beaucoup plus fort, mais ça va dans le même sens que ces vocations personnelles qui étaient dites dans le corps du Christ. Là, c'est que cette vocation, c'est pas simplement une fonction comme le pied, si vous voulez, c'est une dimension divine de créativité, d'être créateur à l'image de Dieu, et ça c'est donné en Christ. Donc cet esprit, il fait de nous un être à l'image de Dieu tout en étant encore un animal, et ça c'est quelque chose qui est... Alors c'est peut-être mal traduit là dans verset 45, le premier homme Adam fut un être animal, mais c'est guinomai, ça devint, il a été engendré, il a été créé, il devint un être animal, et le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie.
C'est Egneto, j'imagine, ou c'est l'idée que c'était le monde du devenir.
C'est quand même, c'est ça, oui.
Oui.
C'est pas simplement est par nature, c'est une création.
Mais ce monde du devenir ne va pas uniquement à sa perte, il entre dans l'être d'une certaine manière.
Oui.
Sauf qu'il ne dissocie jamais le devenir et l'être. Il ne dissocie pas le monde de l'animal et le monde spirituel.
Mais c'est ce qu'on voit finalement dans le Christ, qui nous dit surtout dans les entretiens de la fin de Jean, vous êtes à la fois dans le monde et hors du monde, vous êtes tiré du monde, mais vous n'êtes plus du monde.
Ouais.
Et c'est toujours cette dualité de la, ou bien dans la nouvelle naissance, dans Jean 3, c'est tout cette façon de voir où celui qui veut sauver sa vie la perdra. C'est toujours cette ambiguïté de double dimension de notre être. C'est pas double dimension, c'est on est un être animal, mais aussi progressivement un être spirituel. On est une créature, mais on est vocation à être créateur par l'esprit.
Et voilà. C'est cet aspect d'ailleurs de salut du monde que nous verrons la fois prochaine à Saint-Eustache. Donc après le corps, nous reviendrons au monde, parce que vous savez que nous avons choisi cette année chair, corps, monde, et ce sera avec les grands textes de Jean sur le salut du monde, Jésus sauveur du monde.
Et donc bonne fête Pascal.
Oui, bonne semaine sainte et bonne
à
fête
chacune
Pascal.
Et chacun d'entre vous, puisqu'on a les rameaux dimanche prochain.
Voilà. Hosanna.